Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Ensemble, ces deux sœurs ont fait vivre la danse, mais chacune à leur manière. Pieds nus, en toge, s'affranchissant de toutes les règles académiques, la plus célèbre a jeté les bases de la danse moderne. De son côté, sa sœur a ouvert une école pour les transmettre. Je vous raconte maintenant Isadora Duncan, qui a cru en sa sœur Elizabeth comme personne. Certains patronymes sont associés à des personnalités de l'histoire si célèbres qu'on en oublie que d'autres l'ont porté aussi. Dans la famille Duncan, il y en a deux qui se sont fait un nom. Isadora, d'abord et surtout, puis Raymond. Mais avez-vous déjà entendu parler d'Elizabeth ? La réponse est probablement non. Mais il y a une raison à cela. L'aîné du clan Duncan fut toujours dans l'ombre de sa sœur qui fut toute sa vie littéralement sous le feu des projecteurs. Pendant qu'Isadora se produit sur scène, Elizabeth enseigne. C'est à San Francisco que le couple Duncan, un banquier et une pianiste, met au monde ses quatre enfants. Deux garçons, Augustin et Raymond donc, et deux filles, Elizabeth, née en 1871, et Isadora, de 6 ans, sa cadette. À la suite de la faillite de la Bank of California, le père fait banqueroute. Aux problèmes financiers s'ajoutent des problèmes dans le couple. Ne supportant pas les infidélités de son mari, Maridora Duncan claque la porte avec ses quatre enfants sous le bras. Pour subvenir à ses besoins, elle donne des cours de piano, mais cela ne suffit pas. La famille déménage plus d'une quinzaine de fois. Ils mènent une vie d'errance, une vie de bohème aussi. La mère élève Raymond, Augustin, Elizabeth et Isadora dans le mépris des biens matériels. À la maison, on lit Shakespeare, John Keats, Percy Shelley, mais aussi l'Iliade et l'Odyssée sur fond de musique classique. Les airs de Chopin, Beethoven et Mozart bercent l'enfance d'Elizabeth et Isadora. Le bruit des vagues aussi. Isadora contemple leur ondulation. Aussi, quand sa mère les invite à trouver leur voix, leur passion, les deux filles n'hésitent pas. Danser. Elles n'ont même pas encore 10 ans quand elles montent une école de danse pour enseigner les mouvements du corps aux filles du quartier. Leur réputation grandit très vite à San Francisco. C'est une source de bonheur, mais aussi de revenus. Le maître mot de leur manière de danser, c'est la liberté. Elles s'affranchissent des règles académiques. Il n'y a ni pointe, ni tutu, ni corset. Isadora danse pieds nus, sous une toge en mousseline transparente. La fluidité du vêtement épouse les mouvements de ses membres. À la voir ainsi se mouvoir, on dirait que les statues de l'Antiquité grecque prennent vie. C'est justement ce qu'elle essaye d'incarner. Ces statues, Isadora les admire longuement à la National Gallery de Londres, puis au Louvre à Paris. À 23 ans, dans les rues de la capitale, elle fait la rencontre de Loy Fuller, célèbre pour ses numéros de danse avant-gardistes. Elle intègre sa compagnie, puis se fait remarquer lors de performances qu'elle donne à travers le monde. Paris, Londres, Berlin, Munich. « Je suis venue en Europe pour amener une renaissance de la religion au moyen de la danse », affirme-t-elle, « pour révéler la beauté et la sainteté du corps humain par l'expression de ses mouvements et non pour distraire après dîner des bourgeois gavés. » En parlant de bourgeois, elle fréquente le sculpteur de ceux de Calais, Auguste Rodin, dont on parlait tout à l'heure. En 1903, Isadora se produit même lors du banquet organisé en l'honneur de sa nomination au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Moins célèbre, sa sœur Elizabeth n'en est pas moins active. L'année suivante, elles créent ensemble l'une des toutes premières écoles de danse moderne à Berlin, dans le quartier de Grunewald. Une vingtaine d'élèves ont la chance d'assister aux cours. Isadora en repère 6 qu'elle trouve particulièrement douées. Elle les prend avec elle pour des représentations dans le monde entier. On leur donnera plus tard le nom d'Isadorables. Au cours d'une conférence, Isadora Duncan prône en faveur de l'autonomie et de la libération de la femme. C'en est trop pour le comité, qui retire son soutien financier. L'école ne pouvant plus exister, Elizabeth crée une association pour garder les élèves jusqu'à ce que le grand-duc de Hesse finance la construction d'une école qui voit le jour en 1911 à Darmstadt. Sa durée de vie est brève. Les bombardements de la Grande Guerre la réduisent en fumée. Ne baissant pas les bras, Elizabeth continue l'enseignement en itinérance pendant que sa sœur se produit à l'étranger. Loin des yeux, elle reste toujours au plus près de la danse. Femme libre et indépendante, Isadora refuse de se marier. Elle donne naissance à 2 enfants, hors mariage, et de pères différents. Mais elle a beau choisir son rythme, elle est prise dans le tourbillon de la vie et de ses tragédies. En 1913, ses enfants meurent noyés dans la Seine à la suite d'un accident de voiture. Le choc est dévastateur, le chagrin incommensurable. Cette eau qu'elle aime tant voir onduler engloutit pour toujours la prunelle de ses yeux. Je suis né au bord de la mer et j'ai remarqué que tous les grands événements de ma vie se sont produits au bord de la mer, écrit-elle dans son autobiographie. Elle ne sait pas encore qu'elle vivra ses derniers instants à quelques pas de la Méditerranée. En septembre 1927, Isadora Duncan, qui a alors 50 ans, vit à Nice. Un soir, elle profite de la douceur de l'été indien au volant de son cabriolet sur la promenade des Anglais. L'odeur salée de la mer chatouille ses narines, le vent s'engouffre dans ses cheveux comme un air de liberté. Soudain, son châle se coince dans les roues du véhicule. D'abord étranglée, elle se retrouve violemment projetée hors de la voiture. Son corps sans vie gît sur le sol. Isadora Duncan ne dansera plus. La presse internationale relate l'événement, le monde entier est triste. Elisabeth, la première évidemment. Pour continuer de la faire vivre, elle poursuit sa mission pédagogique et transmet à des générations entières de jeunes filles la manière de danser de sa sœur. En politique, en revanche, les Duncan n'écoutaient pas la même musique. Si elles dansent au même rythme, leurs convictions idéologiques divergent. Isadora a fondé une école à Moscou et se dit attachée au communisme, affirmant vouloir danser pour les masses, pour les travailleurs qui ont besoin de mon art et n'ont jamais assez d'argent pour venir me voir. De son côté, Elisabeth se retrouve prise dans l'étau de l'idéologie nationale-socialiste. Son école itinérante se fixe à Munich en 1936. L'année suivante, elle écrit une lettre à Goebbels. Elle se plaint de figurer dans une encyclopédie de façon diffamatoire, sous la rubrique « Musique et judéité ». Nom de Dieu, elle est arienne. Son collaborateur et compagnon Max Mertz l'engage aussi dans cette voie. Résultat, les cours de danse prennent la forme de propagande autour de l'hygiène raciale. Il est possible qu'Elisabeth Duncan n'ait pas été sensible au jazz dénigrant comme son compagnon, la caricature frivole et les symboles sexuels qu'on trouve dans des danses comme le foxtrot ou le black bottom. Laissons plutôt le mot de la fin à la libre Isadora. La danseuse de l'avenir sera quelqu'un dont le corps et l'âme auront grandi si harmonieusement de concert que le langage naturel de cette âme sera devenu le mouvement du corps. La danseuse n'appartiendra pas à une nation, mais à l'humanité tout entière.